Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
L'évangile, c'est pas une série de dogmes, c'est pas une série de il faut, il faut pas. Ce ne sont pas des principes, il y a des très bons principes, évidemment, il y a des principes dans le royaume de Dieu, mais ce ne sont pas des règles, des il faut pas. La religion vient changer l'extérieur des hommes, la religion vient dire fais ceci, tu vivras peut-être, fais cela, tu auras peut-être plutôt l'assurance de ton salut, habille-toi comme ci, t'habille pas comme ça, mange ci, mange pas ça, mange à telle heure, mange pas ça, mange pas de viande le vendredi, mange du poisson le samedi. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et il n'est pas venu pour nous alourdir et nous donner plus de choses à faire dans la vie. Il est venu nous donner sa vie, une vie abondante, une vie de qualité. Et tous ceux qui ont mis leur foi en action dans la personne et dans l'œuvre de Jésus à la croix ont trouvé une dimension de vie pour leur salut, pour leur guérison, pour leur vie présente et pour leur vie éternelle. Et je vous ai parlé ce matin de détermination de la foi, et je vous ai parlé de Caleb, et j'aime beaucoup dans la Bible tous ces hommes, on va encore en voir un dans l'évangile cet après-midi, ces hommes qui, excusez-moi de le dire ainsi, avaient vraiment tout compris. Ils avaient tout compris, c'était des gens très simples, ils avaient dans la vie, ils avaient rien pour eux, ils avaient rien pour réussir, mais ils avaient tout compris, ils ont tout vu, ils ont tout reçu, ils ont tout expérimenté, et on va regarder ensemble cet après-midi l'un des exemples de ces hommes, de ces femmes, il y en a beaucoup dans l'évangile. Si vous voulez bien ouvrir avec moi l'évangile de Marc, au chapitre 10, on va parler d'un homme qui n'était tellement rien qu'il n'avait même pas de prénom. Évangile de Marc au chapitre 10, on va prendre à partir du verset 46. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, il est question ici de Jésus, de ses disciples, de ceux qui le suivent. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» ou « compassion de moi » selon vos versions. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Attends Seigneur, t'es sérieux là? T'as demandé à un aveugle s'il voulait voir? T'as osé faire ça? « Que veux-tu que je te fasse ?» Et vous allez voir qu'il y a une grande différence entre ce que l'on désire, ce que l'on souhaite et ce que l'on veut réellement, et il y a quelque chose que Bartimée voulait en priorité, je vous le montre tout de suite. « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. 3. Il suivit Jésus sur le chemin. Un des meilleurs exemples d'homme dans les évangiles qui a tout reçu de Jésus qui avait absolument tout compris. Dans les évangiles, il y a une multitude de gens qui ont été guéris par Jésus. Jésus n'a pas pu leur dire « ta foi t'a sauvé ». Ils se sont contentés d'une bénédiction sur un instant T pour le reste de leur vie. C'était un mieux, nettement mieux. Mais Jésus n'a pas pu leur dire « ta foi t'a sauvé ». Et puis, il y a des gens à qui Jésus a pu dire « ta foi t'a sauvé ». Ils ont été guéris, mais il n'est pas dit d'eux qu'ils ont suivi Jésus sur le chemin. Et Bartimée, il a absolument tout compris et il a tout saisi. Bartimée, c'est l'image de ce que nous, nous sommes spirituellement. Je vous ai dit que ce pauvre Bartimée, il a même pas de prénom. Bartimée, ça signifie le fils de Timée. Il est mendiant, il est aveugle, il est assis au bord du chemin, il y a des caravanes et des caravanes entières de marchands qui passent et depuis longtemps il est assis, il est aveugle, il mendie Et c'est pas les routes aujourd'hui de la Ciotat du 21e siècle. Vous imaginez ces caravanes qui déplacent de la poussière en permanence et vous imaginez dans quel état, pas seulement psychologique, physique, moral et spirituel, mais dans quel état physique, comment vous imaginez dans quel état physique il pouvait être. Bartimée, ça signifie le fils de Timée. Cet homme, il n'est absolument plus rien. Il a même pas de prénom. Il a pas d'identité. C'est le fils de machin. Ah, tu sais, le gars qui est toujours assis là, qui fait la manche au coin de la rue. Comment il s'appelle? C'est le fils de l'autre là-bas, oui. Ah, quelle honte, quelle misère, quelle humiliation, quelle déchéance. Quand vous n'êtes plus rien, vous n'avez même plus d'identité. Et c'est ce que nous sommes, nous, spirituellement, parce que c'est ce que la Bible montre, c'est que le péché nous a volé notre identité. Alors que nous avons été créés par notre Père Céleste, tant que nous ne sommes pas rentrés dans la maison paternelle, tant que nous n'avons pas été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, par la foi dans sa personne et dans son œuvre, nous ne sommes personne. Je peux m'appeler monsieur de quelque chose. Je peux avoir une multitude de biens sur cette terre. Je peux m'appeler madame de quelque chose. Je peux avoir une multitude de biens. Je peux être quelqu'un de très respectable, de très fréquentable, de très considéré sur le plan sociétal. Je ne suis, à cause de la puissance du péché, je ne suis qu'un mendiant de bonheur sur le chemin de l'éternité. Je ne suis rien et je ne suis personne et je suis en dehors du chemin, en dehors du royaume de Dieu. Il est mendiant. C'est ce que tous les gens dans ce siècle, dans ce monde, loin de Dieu, c'est ce qu'ils sont. Des mendiants. Mendiants d'un petit peu de joie, mendiants d'un petit peu de bonheur, mendiants d'un petit peu de vie. Et comme on a tellement de mal à le trouver, on essaye de faire la fête, on essaye de s'étourdir dans des plaisirs vains, toujours plus intenses, toujours plus délirants. On essaye de trouver un petit peu de bonheur, on essaye de trouver du bonheur ou de la paix au travers de médicaments, au travers de cures, de ceci, de cela, de tellement de choses. Et les gens aujourd'hui sont des mendiants. Ils sont mendiants parce qu'ils sont assis sur le bord du chemin, ils ne sont pas sur le chemin de l'éternité et ils sont aveugles. C'est ce que la Bible dit, nous sommes aveugles spirituellement. Et ce qui fait que nous sommes aveugles, c'est la cécité. Pourquoi nous avons cette cécité spirituelle? C'est parce que nous sommes dans le péché. Et le péché fait de nous des aveugles. Le péché vole notre vision, il fausse notre vision de Dieu. Le péché dans le cœur de l'homme, ce cancer spirituel, ce cancer de son âme, détruit sa vision de Dieu. Il détruit sa vision de l'autre. Vous êtes incapable, je suis incapable de percevoir les autres tels qu'ils sont réellement si je n'ai pas été reconnecté à Dieu par Jésus-Christ. Si je n'ai pas retrouvé la vue spirituelle, je n'ai pas une bonne vision de l'autre. Le péché m'aveugle, j'ai même pas une bonne vision de moi-même. Et ça, c'est la condition, ce qui est décrit ici, décrit parfaitement la condition aujourd'hui de n'importe quel homme, de n'importe quelle femme, sans Dieu dans ce siècle. Mais la bonne nouvelle au verset 47, c'est que si vous êtes aveugle, vous n'êtes pas sourd. Bartimée est aveugle, mais il n'est pas sourd. Et Dieu vient toujours à nous dans sa grâce par sa parole. Il nous parle. Au verset 47, il nous est dit que Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Cet après-midi, vous pouvez saisir l'opportunité, la possibilité de saisir Jésus alors que vous en avez la possibilité. Il était sur le chemin, mendiant, aveugle, mais il a entendu qu'il y avait quelque chose de différent qui se passait. Il a entendu que quelqu'un qui était beaucoup plus grand que sa misère, que son péché, que sa bassesse était en train de passer. Et c'est par cette parole, parce qu'il a entendu, la Bible dit que nous pouvons avoir la foi parce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ça qui a suscité la foi dans le cœur de Bartimée. Alors, il n'est pas resté là comme ça à rien faire, il n'est pas resté assis, il n'est pas resté les bras ballants. Il a fait une démarche. Et quand on veut être sauvé, quand on veut vivre quelque chose avec Dieu, il faut toujours faire une démarche. Jésus, il a fait sa démarche, il a fait sa part à la croix, il a fait sa part d'impossible. Et nous, nous avons notre part à faire. Notre part, c'est la repentance et c'est la foi pour arriver à Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce verset qui est affiché ici. Rien n'est impossible à Dieu. C'est faux. C'est complètement faux. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Dieu ne peut pas se repentir à votre place. Dieu ne viendra pas croire à votre place. Dieu ne peut pas mettre sa foi en action à votre place. Dieu ne peut pas vous mentir. C'est pas possible. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas vous tromper. Dieu ne peut pas ne pas vous aimer. Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu ne peut pas ne pas vous connaître. Il ne peut pas ne pas vous, il ne peut pas vous oublier. Et je ferme la parenthèse et le trait d'humour. Vous savez que l'inverse est tout à fait vrai aussi. Le texte complet exact dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». L'inverse est tout à fait vrai aussi. Ce qui est possible aux hommes est impossible à Dieu. Et Dieu ne va jamais faire une démarche à ma place. Bartimée a fait sa démarche de foi. Et il s'est mis à crier sur le chemin. Alors vous comprenez bien que c'est pas une histoire de niveau sonore. Si moi aveugle, je suis pas sourd. Mais Dieu non plus, il est pas sourd. Il me connaît très bien. Et il entend même les soupirs dans mon cœur et les larmes inexprimées qui peut-être coulent sur les joues le soir, sur un oreiller, pour essayer d'évacuer de la misère, de la tristesse. Il sait, il entend, il voit, il comprend. Il est pas sourd non plus. Mais ici, au travers de ce cri, il y a cette détermination de Bartimée qui commence à se mettre en marche. Déterminé à s'en sortir et déterminé à ce que ce soit Jésus et Jésus seulement qui le sorte de là où il est pour le sauver. Alors il va se mettre à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, et compassion de moi, c'est qu'il commence à invoquer Dieu. Vous avez des tas de gens qui vous disent, « Comment est-ce que je peux croire dans le bon Dieu avec les misères que je vis ?» Quand il y aura moins de misère sur cette terre, peut-être que je croirai. Quand il y aura moins de ceci, quand il y aura moins de cela, eh ben moi, peut-être que je croirai, peut-être que je commencerai peut-être à venir dans ton église. Il n'y a aucune misère, aucune maladie, aucune blessure, aucune injustice qui m'empêche de m'approcher de Jésus. Par contre, une chose est sûre, tant que je cherche des responsables à ma misère, je suis toujours pas en train d'invoquer Dieu. Tant que je suis en train d'analyser, de rationaliser les causes profondes du pourquoi, du comment je suis arrivé à tel point de misère, je suis toujours pas en train d'invoquer Dieu. Tant que j'essaye de chercher qui est le responsable de mes malheurs et de reporter toujours la faute sur les autres, je peux pas invoquer Dieu. Tant que j'essaye, tant que, je peux pas invoquer Dieu. Bartimée, il a compris qu'il devait invoquer Dieu et invoquer Dieu sur la base d'une seule chose, sa grâce et compassion de moi. Il a compris que Jésus était le Messie, qu'il était Dieu. Quand il dit fils de David, c'est pas une figure de style, hein. C'est pas pour faire joli. Les prophètes, l'Ancien Testament, annonçaient que le Messie viendrait de la lignée de David. Et quand il dit fils de David, c'est une façon pour lui de dire, Jésus, je sais très bien qui tu es. Et si je m'adresse à toi, c'est pas pour faire joli. C'est pas un hasard. Non, j'ai pas essayé Marie, Paul, Pierre, Paul, Jacques, Jean, Confucius, Bouddha, Allah, etc. J'ai pas essayé Pierre, Paul, Jacques, machin bidule. Je m'adresse à toi parce que je sais qui tu es. Tu es Jésus, tu es le Messie, tu es celui qui devait venir de toute éternité. Je m'adresse à toi parce que je sais qui tu es Dieu et je sais ce que tu peux faire pour moi. Il y a des gens qui croient comme ça cet après-midi? Il y a que comme ça que la puissance de Dieu se met en marche. Et à partir du moment où vous commencez à faire une démarche de foi envers Jésus, c'est systématique. Il y a toujours des gens, extérieurs ou intérieurs, qui vont essayer de vous faire taire. Et il y avait la foule. Il était suivi, Jésus, d'une assez grande foule. Alors vous allez dire, ouais, chouette, on est nombreux cet après-midi, si c'est bien, mais en même temps, il n'y a pas franchement une foule qui vous empêche de faire une démarche spirituelle. Mais vous voyez les foules qui nous empêchent de nous approcher de Jésus. Elles sont pas extérieures, elles sont intérieures. Ça peut être cet après-midi la foule de tes excuses. La foule de tes excuses t'empêche de faire une vraie rencontre, une vraie démarche de foi envers le Fils de Dieu. C'est peut-être la foule de tes peurs. On a chanté « Je ne suis plus esclave de la peur ». C'est peut-être la foule de tes raisonnements. Il y a tellement de foule. C'est la foule de nos pensées. C'est tout ce qui tourne en boucle là-dedans à l'intérieur qui nous empêche de... Et chaque fois qu'on veut faire une démarche envers Jésus, il y a soit quelqu'un à l'extérieur, il y aura la voix d'un ami, la voix d'un membre de famille, la voix d'un médecin, la voix d'un tel, la voix d'un tel, ou des pensées, des voix intérieures, des foules intérieures qui vont te dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette église cet après-midi ? Tu crois quand même pas qu'en invoquant Jésus, qu'on voit pas et en fermant les yeux, tu vas être guéri ou que tu vas être sauvé ?» Et les foules se mettent en marche à l'intérieur. Et Bartimée avait ce genre de détermination, ce genre de résolution. Et il savait qui était Jésus. Il a invoqué Jésus sur la base de sa nature. Il savait son cœur, sa grâce, sa compassion. Et il savait ce qu'il était capable de faire pour lui. Et il n'a laissé aucune foule, aucune voix, quelle que soit sa forme. Alors il a persévéré, parce que chaque fois qu'on fait une démarche envers Jésus, il faut persévérer. Il faut chasser ces voix, ces foules intérieures qui nous empêchent d'aller jusqu'à lui. Et il a commencé à crier beaucoup plus fort. Encore une fois, c'est pas un niveau sonore, c'est juste une histoire de persévérance. Fils de David, je sais que tu es Jésus le Messie. Je sais qui tu es, je sais ce que tu veux faire et peux faire pour moi. Et c'est à toi que je le demande. Et c'est en pleine connaissance de cause et de foi que je m'adresse à toi. De toute façon, tant que vous dites pas amen, je m'arrête pas de prêcher. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. C'est intérieur, c'est là que ça doit se passer, dans ton cœur, c'est là que ça doit se passer. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. La réalité spirituelle, ce n'est pas ce que vous pensez. La réalité spirituelle, ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné, même dans votre éducation religieuse ou familiale. La réalité spirituelle, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et Jésus dit, prends courage, lève-toi, je t'appelle. Oui, mais quand même, prends courage, lève-toi. Je t'appelle, fais une démarche. Oui, mais l'autre, il m'a dit que prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ça, c'est la réalité spirituelle. Alors, une fois qu'il avait commencé cette démarche, une fois qu'il a transcendé l'opposition de la foule extérieure et intérieure, il a été encore plus loin. Sa démarche est devenue particulièrement concrète. L'aveugle, verset 50, jeta son manteau et il s'est levé d'un bond pour aller vers Jésus. C'est extrêmement important, ça c'est pas un détail. Tout est important dans le texte. Dans la Bible, le manteau que l'on porte, le manteau est un symbole de revêtement. C'est ce qui nous couvre, c'est ce qui nous revêt. C'est le revêtement spirituel. On voit par exemple dans l'Ancien Testament que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Son papa Jacob, Israël, lui avait fait cette belle tunique. C'était la preuve qu'il avait une faveur, une approbation particulière, qu'il était destiné à quelque chose de grand dans la maison paternelle, etc., etc. La tunique, le manteau, c'est le symbole du revêtement. Et lui, son manteau, malheureusement, c'est aussi un manteau qui nous revêt, nous, spirituellement. Parce que son manteau est un manteau de misère, je vous l'ai dit. Il est sur le bord de ce chemin poussiéreux tous les jours de sa vie depuis des années. Et il est dans un état lamentable. Et c'est une misère qui est accrochée à lui. Il y a une honte, il y a une opprobre. J'ai rencontré des fois des gens qui ont dit « Mais comment voulez-vous que votre Dieu y fasse quelque chose pour moi ? Si vous saviez la profondeur de ma misère, si vous saviez depuis combien de temps je suis dans les liens ?» Si vous saviez depuis combien de temps je suis lié par l'alcool, depuis combien de temps je suis dans les chaînes, depuis combien de temps je suis dans des gouffres de dépression, et je me traîne de médecin en médecin, de cure en cure, de psy en psy, de psychanalyse en psychanalyse, et il n'y a rien qui fait, et il y a une chape, il y a quelque chose sur ma vie, c'est bloqué. Et depuis combien de temps je dis, Seigneur, je fumerai plus jamais. Mais quand je vois un joint dans le caniveau, j'y vais, je le prends, je le fume. Et combien de fois j'ai dit, je ne me droguerai plus, je ne toucherai plus à ça. Mais il y a un poids, il y a une misère, il y a un lien. Et il y a une honte qui est accrochée depuis le temps qu'on est au fond du trou, qu'on est au bord du chemin. On se dit, c'est plus possible. Peut-être il ne se passera plus jamais rien. Bartimée a refusé qu'il ne se passe rien. Et son manteau de misère, il l'a pris, il a jeté ce manteau de misère, il a jeté ce manteau de honte, et il a dit, il n'y a rien, absolument rien, qui m'empêchera d'arriver à Jésus. Ce manteau de Bartimée, c'est peut-être un manteau de misère, de honte. C'est peut-être un manteau de propre justice. Ce manteau de la religion. Ce manteau des gens bien pensants, drapés dans leur propre justice. Oh, moi, monsieur, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais volé. Je suis une bonne personne. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'avais 9 ans. J'étais un bon petit gosse de pasteur évangélique pentecôtiste du mouvement des assemblées de Dieu de France. J'étais un bon petit gosse. Et comme dit une certaine religion, si vous m'aviez vu, croyez-moi, vous m'auriez donné le bon Dieu sans confession. Pas de problème. Et à 9 ans, je réalisais, je comprenais que ma vie sans Dieu n'avait aucun sens et que je me sentais sale. Je sentais un poids de misère et de péché. Parce que c'est notre nature, nous sommes pécheurs, c'est ce que dit la Bible. Alors, ce manteau de honte, il faut le jeter. Ce manteau de misère, ce manteau de culpabilité, ce manteau de religiosité. Parfois, il y a des gens, ils essayent d'arranger leur vie, tellement ils se sentent coupables, et ils se disent, une fois que j'aurai arrangé un peu ma vie, je viendrai à Jésus. Je vais essayer d'être un petit peu plus propre. Et pendant que j'essaye d'être plus propre, la puissance de l'évangile ne me délivre pas et la puissance du diable me grignote toujours un peu plus. Il a jeté son manteau, il s'est levé d'un bond et il est venu vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, ça m'a toujours fait rigoler, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Sans blague. Il faut pas oublier que le Seigneur voulait savoir avant toute chose, qu'est-ce qui était le plus important pour lui? Et c'est écrit comme en filigrane. Faut lire entre les lignes. Quand il a dit « Fils de David », il a dit « Je reconnais que tu es Dieu ». Quand il dit « Rabouni », ça signifie « maître », il l'appelle « maître ». Il y a déjà une inclinaison de son cœur. Il s'est déjà incliné de cœur spirituellement. Il a déjà fléchi son genou devant Jésus. Il a quelque part, excusez-moi, il lui a déjà donné sa vie. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en marche. C'est pour ça que la première chose que Jésus dit, c'est « Va, ta foi t'a sauvé ». Parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en lui, au niveau du pardon, au niveau de la réconciliation. Il a donné sa vie et il a trouvé une vie nouvelle. Et que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas dit « Seigneur », il n'a pas dit « que je recouvre la vie ». Il a dit « Rabouni ». Et il avait confessé avant « fils de David ». Ensuite, il a dit « que je recouvre la vue ». Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Et 3, il a compris. Mais il y a combien de gens, même des chrétiens, pardon, parfois, qui comprennent pas ça, que même si je suis sauvé, même si j'ai été guéri, même si j'ai fait des super expériences avec le Seigneur, à n'importe quel degré de ma vie, dans n'importe quelle sphère de ma vie, si je ne m'attache pas à lui, si je ne le suis pas, je vais me perdre. Et c'est pour ça que Bartimée est l'exemple type de l'homme super intelligent, alors qu'il avait rien pour lui, mais il avait tout compris. Il a dit, tu es le fils de Dieu, je vais m'attacher à toi, tu vas me sauver, tu vas me guérir, je vais m'attacher à toi. Tout ce que j'ai, je ne le perdrai plus, je ne me perdrai plus. Et vous savez, il a su s'attacher non pas à une guérison, non pas à une bénédiction, il a su s'attacher au Dieu de toute bénédiction. Je termine avec cette anecdote. Un jour, il y avait 2 jeunes filles qui étaient devant une bijouterie. Puis comme toutes les jeunes filles qui cherchent à se marier, qui cherche le prince charmant, grand, chauve, avec des lunettes, pas très beau, et qui roule dans une vieille voiture toute moche, et qui gagne vraiment pas beaucoup d'argent. Elles sont en train de rêver devant la bijouterie. Et en regardant les bijoux, elle commence à engager la conversation. Elle dit, oh là là, moi j'espère que celui qui viendra me demander ma main, il sera tellement, tellement riche qu'il pourra me payer cette bague. Moi je voudrais, non, tu plaisantes, moi je veux pas cette bague, moi je veux cette bague-là. Ah ouais, oh t'as pas vu, et celle-là, celle-là, oh moi j'aimerais bien avoir cette bague-là. Ah ouais, oh quoi que celle-là, vu le prix, vu le nombre de carats, oh j'aimerais bien celle-là. Et elles sont en train de débattre sur la valeur des bagues qui sont en vitrine. Et puis il y a leur copine, la troisième, elle arrive, puis elle leur dit, oh les filles, de quoi vous parlez là? Elles disent, ben écoute, quand on va se marier, vous avez même pas de chérie, oui mais quand on va se marier, on voudrait que, moi je regarde cette bague. C'est, mais qu'est-ce que vous faites? Ben on est en train de parler des bagues qu'on va se faire offrir. Et elle, elle dit, ah non mais moi j'ai pas, je veux pas une bague, moi j'ai déjà épousé le bijoutier. Bartimée, c'est ce genre d'homme qui a épousé le bijoutier et qui s'est attaché au Dieu de toutes les bénédictions. Amen. On se recueille, on prie un instant ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta compassion, ton immense amour qui a fait que tu as quitté ton ciel de gloire, renoncé à tes droits, à tes privilèges, tu as tout quitté, tu as renoncé à tout, tu as renoncé à toi, tu as fait une croix sur toi, Seigneur, tellement tu voulais nous avoir avec nous dans l'éternité. Je te prie, Seigneur, alors que cet après-midi, tu passes encore par ton esprit et que tu passes encore par ta parole pour frapper à la porte des cœurs, qu'il puisse y avoir dans ce lieu des gens qui soient aussi intelligents que Bartimée, quelle que soit la profondeur de leur fosse, quelle que soit la profondeur de leur misère, peu importe depuis quand, Seigneur, ils sont dans cette misère, qu'il puisse y avoir une détermination de foi qui naisse en eux, une foi qui vienne de ta parole et qui leur donne, Seigneur, maintenant ce courage de faire une démarche, de faire taire toutes les voies contraires, Seigneur, de persévérer avec toi, de s'attacher à toi, de reconnaître que tu es Jésus le chemin, Jésus le Seigneur, Jésus le Sauveur, Jésus la résurrection, Jésus la vie, Jésus la lumière dont j'ai besoin, et qu'ils puissent vraiment, Seigneur, non seulement être sauvés, recevoir aussi les bénédictions que tu as prévues pour eux, pour leur corps, pour leur famille, pour toutes les situations de cette vie, et puis qu'ils aient aussi cette intelligence, comme Bartimée, de s'attacher non pas à une bénédiction, mais de s'attacher au Dieu de toutes les bénédictions. En ton nom, Seigneur, j'ai parlé aujourd'hui, et je te demande de faire grâce à tout cet auditoire. Amen.